C'est le début de la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Et vous savez que je profite toujours de l'occasion pour vous parler du sujet qui est vital. C'est vraiment vital. Et j'en parle par expérience personnelle puisqu'en novembre 2013, mon conjoint Thierry a une deuxième chance à la vie grâce à un don d'organes. Aujourd'hui, on peut vivre et poursuivre notre vie de famille avec ses enfants et sa conjointe. On est d'ailleurs depuis parrain et marraine de l'organisme Chaîne de vie qui contribue à encourager le dialogue entre les proches grâce aux jeunes dans les écoles qui en parlent à l'école, qui font du travail là-dessus à l'école grâce à leurs enseignants, puis qui ensuite amènent la conversation à la maison parce qu'on est convaincu, puis c'est documenté, que quand on en parle entre nous, avec nos enfants, nos proches, notre famille, on comprend mieux, puis on fait connaître nos volontés si jamais il arrivait cette situation où, vous savez, c'est très rare. Hein? Il n'y a que 1, à peine 2% des gens qui meurent à l'hôpital qui peuvent être des donneurs d'organes. Et si ça arrivait, bien, au moins, la situation est claire, les dernières volontés sont claires. Bien sûr, vous pouvez signer à l'endos de votre carte d'assurance maladie. Le problème qu'il y a, puis je pense que c'est pour ça qu'il faut à tout prix en parler encore aujourd'hui, alors que la Semaine nationale du don d'organes commence, c'est que malgré le fait que les gens, les Québécois, qui sont tous en faveur, hein, il y a une grande majorité parmi vous, vous êtes d'accord que c'est une bonne chose, qu'on devrait tous faire don de ces organes quand on peut à notre mort pour sauver la vie de jusqu'à 8 personnes. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons qu'on va discuter, malheureusement, les proches, 1 fois sur 5 refusent. C'est pas mal de monde, là. 1 famille sur 5 s'oppose malgré le consentement du défunt au don d'organes. On va en discuter, puis je vais vous donner tout de suite nos numéros si vous voulez dire quelque chose là-dessus, si vous voulez témoigner, si vous êtes une famille de receveurs. Évidemment, je sais que vous allez vouloir dire merci à votre donneur parce qu'on est tellement reconnaissant. Vous pouvez le faire. Si vous êtes une famille de donneurs également, faites-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous expliquer comment ça se passe. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de bienveillance. C'est tout le contraire des images négatives qu'on peut s'imaginer. 514-790-9850. De l'extérieur, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Karine Robert est avec nous. Son père est décédé. C'est mal tombé, un infarctus le jour même où il prenait sa retraite. Karine, merci d'être là.
Bonjour Isabelle.
C'était il y a combien de temps?
Ben, c'est en janvier, alors c'est tout récent.
Oh, toutes nos condoléances, Karine.
Ben, merci. Ça me touche d'autant plus de faire l'entrevue avec toi parce que je sais que tu fais partie d'une famille qui a reçu un organe. Mm-hmm. Et moi, je trouvais ça important de... Je suis allée vers transplant parce que je suis une personne qui a toujours cru au don d'organes. Ma carte est signée. Mais quand tu arrives dans un onde de choc, je me suis aperçue qu'on réagit autrement. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Et ça fait en sorte que, ben, dans l'état où, tu sais, tu l'as mentionné, les statistiques sont minimes de gens qui peuvent donner donc un organe. C'est souvent en cas de mort cérébrale. Et c'est ce qui est arrivé à mon père, mais c'était pas clair le diagnostic. Et notre réaction, ça a été non au départ. On voulait pas, on n'était pas rendu là dans notre choc, dans notre cauchemar, dans cet état où on sentait même pas être dans la vie réelle. Et j'ai resté surprise de ma réaction. Puis quand je suis allée voir les statistiques, j'ai fait OK, on n'est pas seul à peut-être pas être capable de franchir le pas. Mais le beau de l'histoire, c'est que nous, avec le temps puis avec l'accompagnement, puis quand on a réussi à répondre à nos nombreuses questions médicales, on est passé au oui. Puis c'est le message que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça fait tellement du bien, le oui. Ça, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé beaucoup d'apaisement, de réconfort, beaucoup de fierté dans la suite des choses et dans la façon dont ça s'est tout articulé dans le processus également.
Oui, Karine, ton père avait signé sa carte. Est-ce que vous en aviez parlé? Est-ce que ça avait été abordé dans les conversations?
Ça, c'est vraiment c'est vraiment important, cet aspect-là, parce qu'il a signé sa carte en 2011. Puis c'est pas rationnel quand t'es dans une crise où tu veux pas que ton parent meure. Tu te dis, est-ce que c'est encore ça qu'il veut? Moi, j'ai pas eu de conversation avec lui. On est dans une période où on n'est même pas capable d'aborder cette possibilité-là parce qu'on est quand même en train de se dire que c'est la fin. Puis tu sais, dans notre tête, on n'est pas rendu là. Mais avec le temps, sa conjointe s'est souvenue des conversations qu'elle avait eues avec lui. Puis là, soudainement, ça fait en sorte que, ben là, il faut aller de l'avant, là. Il faut respecter sa volonté. On peut pas retenir ses organes si on peut sauver des vies. Ça nous a beaucoup aidé à prendre la décision, parce qu'on prend beaucoup de décisions à l'hôpital, hein. Les choses, des fois, se passent vite. Là, tu sais, c'est tous des termes qu'on connaît pas. C'est une réalité qu'on connaît pas. Mais le fait qu'il en ait parlé avec sa conjointe, ça nous a aidé à prendre la décision. Fait que je me dis, si de notre vivant, on peut aborder de ça, je pense que c'est une étape de moins, un fardeau de moins pour la famille. Tu sais, il y a la préparation aussi de sentir que médicalement, quand tout a été fait, quand c'est clair, quand le diagnostic est annoncé, et Dr Weiss, c'est votre prochaine invitée, va vous l'expliquer, comment c'est primordial de ne pas mettre les deux nouvelles dans la même conversation.
Voilà.
Ça a l'air banal, mais ça fait toute la différence.
Ouais. Toi, tu dis, j'ai hésité, c'est vraiment deux jours plus tard que avec ma famille, on a accepté que ton père fasse don de ses organes. Qu'est-ce que tu craignais?
Ce qui est arrivé, c'est que le diagnostic, dans notre cas, il n'était pas clair. T'sais. D'abord, il y a eu, on a mentionné mort cérébrale. Ensuite, mon père s'est remis à respirer. Ça a compliqué un peu le tout, ce qui fait que là, on s'est dit, on pense toujours à un miracle.
Ouais.
Fait que là, on se dit, il est en train de dire qu'il veut pas s'en aller. Fait que là, tu t'accroches à chaque petit détail, mais l'équipe médicale sait très bien où est-ce que ça s'en va, ce scénario-là. Il a été réanimé 5 fois. Il y a peu de chances que, tu sais, il y a à peu près aucune chance que ça se produise, qu'il revienne à lui, puis qu'il ait des séquelles acceptables. Mais tu sais, ça veut dire que nous, personnellement, on n'était pas prêts à parler, puis parce que ça a tout été annoncé dans le même moment. On a évoqué la possibilité. Dans le fond, on nous a comme préparés, on nous a tendu une perche. Mais je pense qu'on n'était pas prêts à recevoir ça. Mais ça a vraiment été le temps. L'équipe médicale nous a donné les réponses qu'on avait besoin. Puis après, on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, on respecte sa volonté, on va de l'avant. Puis la belle surprise, c'est tout ce qui est arrivé après. Mon Dieu, que t'as l'impression que ça donne un sens à cette mort brutale-là. Tu te mets à espérer pour des familles que tu connais pas. Là, tu veux que ça fonctionne. Tu pries pour du monde que tu connais pas, là. Tu dis, là, je veux que ça fonctionne, puis tu embarques dans le processus. Toute la délicatesse, l'empathie, tout est là pour nous accompagner. Puis il y a quelque chose que je veux mentionner, c'est que plus on a de détails avant, quand on est dans le choc, je pense que les étapes sont plus faciles à franchir. Quand on est en région, les gens doivent savoir que le corps, là, il va partir à Montréal. Ça se peut que ça occasionne des délais pour les funérailles. Mais quand tu le sais, ça, avant, on dirait que tu es mieux préparé. Mais quand ça arrive dans un état de choc où là, on t'annonce toutes sortes d'étapes que tu ne savais pas, on dirait que là, tu deviens plus craintive.
Tout à fait.
Alors, tout là, l'importance de parler de ça. Puis nous, c'est ce qui est arrivé. Il est décédé à Val-d'Or, il est allé à Montréal. Tout s'est bien passé. En temps réel, on peut toujours téléphoner pour savoir il est rendu où, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça se passe bien. Puis à la
combien?
Fin, on reçoit...
Oui,
oui. Non, allez-y, Isabelle.
J'allais vous demander, Karine, combien de Québécois ton père a aidé? Est-ce que tu le sais?
Je ne peux pas le savoir encore parce que je suis en attente de la lettre qui va me confirmer si la greffe a fonctionné. Il faut dire qu'on est en temps de COVID aussi. Ça a peut-être réduit la possibilité parce qu'on le sait, ça fonctionne... T'sais, là, on est en ordre de priorité, on est dans les urgences en ce moment. Puis on est en attente de cette lettre-là. Il y a quelque chose de beau, puis il y a des médailles qui sont remises aux gens qui ont été des donneurs. Il y a une reconnaissance là après qui t'amène à dire, mon Dieu, c'est un grand geste. Puis de voir un homme comme ton mari continuer à vivre, être avec sa famille, ça prend tout son sens. C'est une chaîne de vie qui est nécessaire. Mais quand je vois une personne sur 5, je me dis, le choc a été trop grand. Comment on peut faire pour mieux les accompagner? Comment on peut préparer ça en amont pour qu'eux soient en mesure de le faire? Puis j'avais le goût de dire, franchissez le pas, si c'est possible, si vous êtes en mesure de le faire, parce que ça fait un énorme bien. Puis ça, je m'attendais pas à ça. Ça apaise la peine vraiment beaucoup. Ça amène l'énergie ailleurs, puis on a l'impression qu'il est encore vivant, mais différemment.
Tellement, tellement vrai. Moi, c'est un des sujets qui m'émule le plus, pour lequel j'ai toujours beaucoup de difficultés à témoigner, parce que c'est encore très, très vivant pour nous. Il n'y a pas une journée qui passe, Karine, où je ne remercie pas la famille du donneur, où je ne regarde pas Thierry en me disant, mon Dieu, tu sais, il y a 6 ans, 7 ans, peut-être que... ça aurait été ça pour nous, là, que je regarde mes enfants grandir. J'ai regardé ce matin des photos de l'époque. C'était en 2013. Ça va faire 8 ans. Mm-hmm. Je voyais à quel point mes filles étaient petites. Elles auraient perdu un père. Ma plus jeune était très jeune. Elle avait à peine 10 ans. Donc, c'est des vies. Puis je crois que notre donneur a sauvé 3 autres vies. Il y a maintenant des dons de tissu. C'est énorme. Alors, merci au nom de tous ceux que ton père a pu aider. Je suis sûre qu'ils sont... Écoute, c'est jusqu'à 8 personnes. Puis quand il s'agit des dons de tissu, c'est encore plus nombreux. Donc, c'est vraiment... C'est probablement le plus grand geste d'humanité qu'on peut poser.
Je suis totalement d'accord. Je suis très touchée par ton histoire parce que ça donne un sens à cette décision-là qui a l'air facile à prendre parce que le geste est beau, mais quand tu perds quelqu'un, c'est plus tout à fait le rationnel qui réfléchit. Hein. Fait qu'il faut juste se dire qu'il faut traverser la crise, puis l'autre côté, ça peut nous amener quelque chose, mais ça apporte quelque chose d'encore plus grand aux familles qui vont le recevoir aussi.
Tellement, tellement. Merci beaucoup, Karine Robert, de ce témoignage.
Merci
bien de parler pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. On va s'arrêter ici après la pause. Effectivement, Karine nous le disait, je vais recevoir le directeur médical en don d'organes chez Transplant Québec qui gère tout ça, qui est vraiment la grande association là, qui s'occupe de faire le transport, qui s'occupe également des listes d'attente. Et vous savez qu'en période de pandémie, depuis 12 mois, on a eu l'occasion d'en discuter au cours de l'année. Il y a moins eu de greffes que d'habitude. Déjà que c'est pas évident d'avoir des dons d'organes pour toutes les raisons que Karine vient d'émettre, mais aussi parce qu'il y a encore beaucoup de réticences selon la région. Dans certains milieux hospitaliers, c'est encore vu comme quelque chose qui est peut-être pas une priorité. On veut sauver les vivants. On a l'impression que sauver des gens qui vont mourir, ça appelle même les tribus. Et on le dira jamais assez à quel point c'est majeur, c'est vital. Donc, le docteur Weiss va être avec nous. On aura également, vous l'avez peut-être vu hier, à Tout le monde en parle, c'est la maman de Justin, Marie-Pierre Savaria, qui vient de publier un livre où elle raconte comment elle a pu revivre après le deuil de son enfant. Justin n'avait que 8 ans, mais il a donné, entre autres, 4 de ses organes. Et aujourd'hui, Marie-Pierre parle avec beaucoup de lumière de cette période de sa vie. On va lui parler aussi après la pause. 514-790-9850. Nos lignes sont déjà pleines. Je suis contente que vous vouliez intervenir sur ce sujet. Ça me touche beaucoup. On va s'arrêter ici. Le docteur Mathieu Weiss est directeur médical en don d'organes chez Transplant Québec. Bonjour, docteur Weiss.
Bonjour, Isabelle.
On a entendu un magnifique témoignage de Karine Robert, dont le père, décédé récemment, a donné ses organes. Karine disait au début, ça a été non pour nous, puis on s'est vite rendu compte, 2 jours plus tard toutefois, parce qu'il y avait ce besoin de comprendre, puis c'est tellement vrai ce que disait Karine. C'est important de donner l'heure juste aux familles, de bien leur expliquer. Alors, pouvez-vous le faire? Pouvez-vous vulgariser un peu pour ceux qui nous écoutent comment ça se passe à partir du moment où quelqu'un, dans son cas, par exemple, son père était en mort cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être d'abord, la première question, c'est de savoir qui peut être un donneur à l'hôpital ou quelqu'un qui est dans un accident de voiture, par exemple, sur la route. Comment ça se passe?
Oui, mais c'est une très bonne question et merci de l'occasion de l'aborder un peu. Mais comme vous avez déjà mentionné, c'est assez rare d'être dans les circonstances d'être un donneur. Et la plupart de nos donneurs viennent après un décès neurologique ou un mort cérébral, comme vous mentionnez. Mm-hmm. Et il y a une grosse différence entre un mort cérébral et un coma. Okay? Parce que souvent, on voit dans les films, dans les médias, que coma et mort cérébral sont utilisés comme c'est la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Un décès neurologique, c'est quand on a pris le temps avec un examen très, très précis, et qui est confirmé que la personne a perdu toute capacité cérébrale d'être conscient et même de respirer pour lui-même d'une manière permanente. Il n'y a jamais personne qui a comblé tous les critères de décès neurologique sans des facteurs confondants comme peut-être s'il y avait un patient qui était trop froid, en hypothermie, là, ça peut mimiquer un décès neurologique, mais donc on fait bien attention qu'il n'y a pas de facteur qui peut mimiquer le décès neurologique. Et puis, une fois qu'on a comblé tous les critères il n'y a personne qui est jamais revenu de ça.
Oui, c'est ça. Donc, une mort cérébrale, c'est vraiment la personne est morte, sauf que son corps, ses organes, certains de ses organes peuvent toujours être en vie d'une certaine façon.
Exact, parce que ça déstabilise, et je comprends bien, la première fois que je l'ai vu aussi, c'est quand même quelque chose de choquant, parce que la personne semble être en train de dormir.
Oui, voilà.
Le cœur bat, le peau est rose, il est chaud, mais le cerveau est quand même complètement parti et ça ne va jamais revenir. Donc, la personne ne va jamais revenir.
C'est pour ça, vous diriez, à cause de l'espoir que les gens refusent, une famille sur cinq au Québec qui s'oppose au consentement de don d'organes, malgré le fait que, dans bien des cas, il y a eu, dans ces cas-là, une sur cinq, là, c'est le défunt l'avait exprimé sa volonté, par écrit même, et pourtant, la famille refuse. Vous comprenez ça, évidemment, on le comprend parce qu'on ne veut même pas s'imaginer être dans une situation comme celle-là, mais est-ce que vous estimez que c'est une question de... parce qu'on n'a pas encore compris comment ça se passe, parce qu'on ne nous l'explique pas assez? Comment vous voyez ça, Dr Varese?
Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. Là. Et je vais juste commencer avec une toute petite précision là, sur cette statistique-là. C'est parmi les refus, il y a 20% des gens qui avaient, où le défunt avait signé. Mm-hmm. Donc, juste une petite précision là. Mm-hmm. Mais en fait, les raisons sont multiples. C'est comme on a entendu dans l'histoire de Karen, il y a eu une discussion quand même entre son père et sa conjointe là, sur le fait qu'il voulait être un donneur. Et ça, c'était un point clé dans l'histoire. Parce que parfois, les jeunes, ils signent, mais ils disent rien à la famille. Et puis, on est dans une situation où tout est bouleversant. C'est comme il y a eu, comme ce cas-là, un infarctus soudain, inattendu, ou un accident d'auto. La famille est dans tout ce drame-là. Il y a le concept de décès neurologique qui n'est pas facile à comprendre parfois. Et là, est-ce qu'on est certain que papa aurait voulu ça? Je sais pas. Bof, ça va prolonger l'affaire. Non, on va juste... Non, laisse faire.
C'est ça. Comme on le sait pas, on va s'abstenir, dans le fond.
Exactement. Voilà. Ça peut être une réponse. Et vous avez bien mentionné que, oui, d'avoir les professionnels de santé qui sont capables de séparer. On a le terme qu'on utilise, c'est le découplage. Là, on ne va pas coupler l'annonce de mauvaises nouvelles sur le pronostic avec aussi la demande de don d'organes. On va séparer ces affaires autant possible.
On va donner le temps tout en considérant que le temps compte aussi. Là.
Oui. Mais oui, ça compte, mais c'est pas aussi critique que parfois le monde pense. Parce que une fois que le drame de la blessure initiale ou l'infarctus initial ou quoi que ce soit, une fois que le patient est stabilisé dans un état de décès neurologique, souvent, il y a une stabilité relative pour le reste des organes. On ne parle pas des mois, là, mais on parle de si c'est...
Un cœur, mettons, on peut garder ça combien de semaines, combien de jours?
Bon, il y a des cas assez extrêmes qui sont rapportés parce que ça peut être des semaines, des mois. Mm. Parce qu'il y a eu des cas rapportés dans la littérature, surtout dans les autres pays, mais même ici au Canada, où la famille refusait d'accepter le constat de décès neurologique. Et là, les travailleurs de santé, l'hôpital était obligé de garder la personne pendant que le processus se poursuivait.
On a vu des cas en France, effectivement, entre autres. Dr Weiss, restez avec nous. On a Marie-Pierre Savaria qui est là. Vous l'avez peut-être vu, à Tout le monde en parle. Elle a fait un témoignage tellement touchant. Elle parle de son fils Justin. Marie-Pierre Savaria vient de lancer un livre qui s'intitule « Justin n'avait que 8 ans, revive après le deuil de son enfant ». Et elle est avec nous. Je voulais vraiment lui dire un petit mot ce matin. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour, bon matin, bon midi.
Vous nous avez tellement touchés avec mon conjoint hier. On écoutait votre entrevue à Tout le monde en parle où vous parliez de Justin. Et ce que j'ai compris en lien avec notre discussion jusqu'à maintenant avec le Dr Weiss et tout à l'heure Karine Robert, c'est que vous, ce qui a été fondamental dans la décision de consentir au don d'organes de votre fils, c'est le fait que vous en aviez un petit peu parlé justement avant.
Oui, évidemment. C'est sûr que ça l'a peut-être aidé dans la décision. En même temps, moi et mon conjoint, évidemment, étant les parents, à la dernière minute, on aurait pu refuser.
Ouais.
Nous, étant donné qu'il était tout jeune, on le savait en pleine santé, ça a été d'emblée une réponse positive, peut-être parce qu'on s'était bien fait apporter ça à l'hôpital dans les bons moments, de belle façon, très respectueusement, tout en nous laissant le temps d'y réfléchir, mais évidemment de savoir qu'on avait abordé la discussion quelques semaines auparavant, c'est très particulier et c'est sûr que dans mon cœur, ça m'assure que j'avais son consentement et que je suis convaincue qu'il est très fier là, de la dernière décision qu'on a prise pour lui.
Oui, puis c'est épouvantable. J'ai tellement d'empathie, de sympathie pour ce que vous avez vécu, et comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs qui ont eu l'occasion de voir tout votre témoignage hier. Justin, vous le dites très bien, avec 8 ans, il est parti une belle journée ensoleillée, se baigner chez un ami. Ils ont joué à un jeu de retenir son souffle sur l'eau, puis lui, hyperventilé. Quelque chose qu'on se dit, ben voyons donc, ça se peut pas.
Ouais.
Aujourd'hui, à cause de sa mort, vous avez quand même consenti donc au don d'organes et vous avez permis à au moins 4 familles donc d'avoir un organe pour leurs enfants.
Oui. Alors, dans un processus de deuil, en tout cas, je parle pour nous, pour moi et mon conjoint, ça a été très aidant. On s'est accroché beaucoup. On l'appelle notre petit héros au fait que, évidemment, il est parti beaucoup trop vite. Il restait une tonne de choses à accomplir, mais de savoir qu'il a fait ce grand don avant de quitter, de savoir qu'au travers 4 autres enfants, il continue à grandir au travers tout ça d'une certaine façon. Alors, c'est un énorme accomplissement et un grand sentiment de fierté pour des parents, en tout cas, là, pour les proches, là, certainement.
Ouais. Karine Robert disait tout à l'heure, on dirait que ça donne un sens à la mort.
Absolument, ben oui. Comme je vous dis, c'est très personnel, là, mais nous aussi, c'est ça. Ça contribue beaucoup à ne serait-ce que d'atténuer un petit peu la douleur, de savoir que les heures qui ont suivi la suite des choses, la tournure des transplantations ont été positives. Alors, d'une certaine façon, c'est ça. On se dit que c'est notre proche qui a créé tout ça, qui a été fort pour transmettre tout ça. Alors, c'est un...
Et Justin est très présent, très vivant dans vos cœurs, puis dans le cœur de plus en plus de gens, parce que là, il y a une fondation. Je tiens absolument à parler de la fondation Justin Lefebvre. Qui vient en aide, donc, à tous ces jeunes là, qui font du sport et aussi, bien sûr, votre fondation va contribuer à ce qu'on essaye d'encourager un peu, une meilleure compréhension du don d'organes.
Exactement, tout à fait. Alors, nos deux grandes missions, évidemment, notre Justin, notre héros, la mission du don d'organes, de tenter de continuer la sensibilisation, la promotion, l'éducation un peu d'une certaine façon au niveau de ce sujet tellement important, mais en même temps, c'est ça, tellement encore trop peu de gens bien, bien informés. Et puis, notre autre mission, pour l'instant, on se concentre à notre région de l'Estrie, mais on souhaite perpétuer ça à grande échelle, de pouvoir donner accès à des activités sportives et à l'éducation ici, là, auprès des familles à faible revenu. Alors, ça représente tout à fait notre beau grand héros.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Savaria. Je rappelle le titre du livre, Justin avec 8 ans. Il y a la photo de votre petit bonhomme qui est trop mignon.
Oui, merci.
Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci bien. Je pense que merci, c'est le mot ici que tous les receveurs veulent absolument dire, écrire. Vous savez que beaucoup de receveurs vont écrire à la famille de leur donneur. Je pense que ça aussi, ça donne des témoignages extrêmement touchants. Dr Weiss, merci pour ce que vous faites. Merci de parler de cette Semaine nationale du don d'organes et de tissus.
Merci à vous. Merci de l'occasion. Et je mets l'emphase aussi sur le fait que vous avez eu l'occasion de parler des deux faces de don et transplantation, de mettre l'emphase sur le bien que ça peut faire pour les donneurs et aussi pour vous et votre famille comme receveurs. C'est vraiment un cercle.
Merci.
Complète.
Merci beaucoup. Merci. C'est le plus grand don qu'on peut faire, je vous le dis. Là. Puis je vais arrêter ici parce que c'est le moment où, en général, je n'arrive plus à parler et je suis submergée par l'émotion parce que, je vous le dis, là, ça fait tellement une différence. C'est la différence entre mourir ou vivre. On va s'arrêter ici. On parlait de terrasse après la pause. À tout de suite, tout le monde.